Le débat du jour. Nathanaël Vitran.
L'évasion fiscale me révolte. Elle me révolte parce que par définition, ceux qui font de l'évasion fiscale, ce ne sont pas en général ceux qui ont les fins de mois les plus difficiles. Elle me révolte parce qu'elle suppose la complicité d'un certain nombre d'États auxquels nous demandons depuis des années des informations, des explications qu'ils ne nous ont pas encore données. C'est un combat de longue haleine.
Réaction de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, au moment des premières révélations issues des Paradise Papers, le résultat d'une nouvelle fuite massive de documents confidentiels provenant d'un prestigieux cabinet d'avocats spécialisé dans les activités offshore et de l'enquête du consortium international des journalistes d'investigation auquel participent notamment le journal Le Monde, le Süddeutsche Zeitung, le Guardian et le New York Times. Ces révélations mettent en lumière les petits arrangements et les grosses combines utilisées par les multinationales et les très grandes fortunes pour dissimuler une partie de leurs revenus dans les paradis fiscaux et échapper ainsi à l'impôt. Des montages parfaitement légaux, répondent les intéressés. Légal, peut-être, on en reparlera, mais tout cela est-il bien moral ? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Éric Vernier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques et auteur de deux livres sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Techniques de blanchiment et fraude fiscale et paradis fiscaux, parus l'un et l'autre aux éditions d'Uno. Également en ligne avec nous, Jean-Philippe Delsol, bonsoir.
Bonsoir Nathalie Vitran.
Jean-Philippe Delsol, vous êtes avocat fiscaliste, président du think tank IREF, c'est l'Institut de recherche économique et fiscale et vous avez écrit L'injustice fiscale ou l'abus de biens communs aux éditions DDB. Merci à tous les deux d'être avec nous. Première question, Éric Vernier, beaucoup de noms ont circulé. Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, son collègue du commerce, le trésorier du parti de Justin Trudeau, Bernard Arnault en France, des entreprises comme Apple ou Nike parmi beaucoup d'autres. Au-delà des noms, est-ce que sur les mécanismes mis en place pour échapper à l'impôt, vous avez appris quelque chose ou est-ce que tout cela était déjà connu ?
Non, malheureusement, tout était connu. Alors, on a quelques précisions. On voit apparaître certains montages qui ont été créés plus récemment parce que les situations évoluent, notamment les situations légales à travers le monde. Mais globalement, nous étions au courant et ça a été écrit depuis longtemps, notamment dans mes ouvrages.
Jean-Philippe Delsol, vous avez été surpris, vous, par ces révélations ?
Non, d'aucune manière. Mais ceci dit, je crois qu'il faut préciser tout de suite que contrairement à ce que dit M. Le Maire, et je trouve ça très grave d'ailleurs, que le ministre, un ministre important, commette une telle erreur. Il parle d'évasion fiscale et de complicité fiscale des États. Il ne s'agit pas ici, en l'état, de ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Il s'agit d'optimisation fiscale.
Quelle est la différence, justement ?
Ah, mais ça n'a rien à voir. L'évasion fiscale, c'est en fait une fraude à la loi, tandis que l'optimisation fiscale est l'utilisation maligne de la loi. Ce que font tous les Français quand ils utilisent telle ou telle niche fiscale pour payer moins d'impôts.
Éric Vernier, vous voulez réagir ?
Oui, je voudrais pas contredire totalement Monsieur Delsol. Monsieur Delsol a raison. Il y a une différence, mais il y a en fait des différences encore plus fines. L'optimisation fiscale est légale, mais on pourra reparler justement de tout ce qui est, par exemple, planification fiscale agressive, qui est de l'optimisation fiscale agressive et sauvage. L'évasion fiscale, c'est à ne pas confondre avec la fraude fiscale. C'est bien de l'optimisation avec un abus de droit. Non, mais c'est parce qu'il y a trois niveaux. Là, vous parlez d'évasion fiscale comme de la fraude fiscale. En fait, il y a une différence et donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, puisque lorsque l'on voit Lewis Hamilton, par exemple, qui crée des sociétés avec une activité fictive, une activité commerciale fictive pour échapper à 3,7 millions de TVA sur son jet, c'est-à-dire 250 ans de SMIC quand même, j'estime que ça n'est pas de l'optimisation fiscale. Si on regarde le cas Jean-Jacques Hano, c'est la même chose. On n'est pas du tout dans l'optimisation fiscale, mais même dans la fraude fiscale, sans même parler d'évasion.
Jean-Philippe Dassault, je vous laisse réagir.
Oui, bien sûr. Monsieur Vernier n'a pas entièrement tort non plus. C'est compliqué, tout ça, et vous l'imaginez bien. Mais il est exact que lorsqu'on utilise un bateau à des fins commerciales, ce qu'on appelle le chartering dans le jargon de la navigation, on peut effectivement déduire la TVA, comme tout commerçant, tout industriel peut déduire la TVA, parce qu'il la refacture avec une déduction lorsque c'est à l'international.
Oui, quand le seul locataire, le seul utilisateur, c'est le propriétaire, alors, j'estime quand même qu'il y a plus qu'un abus de droit.
Vous avez raison, Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des schémas qui sont les schémas utilisés par tout le monde, qui permettent dans certains cas d'être exonéré de TVA. Ces schémas peuvent être utilisés de manière frauduleuse, et je vous rejoins. Dans ce cas-là, il y a abus de droit. Le vrai problème, c'est que avant que de condamner toujours les autres, il faut peut-être regarder vers soi-même. Et moi, je suis extrêmement surpris des politiciens, des hommes d'État, des États eux-mêmes, qui toujours vont dire « Ah, mais c'est la faute de ces gens-là qui trichent, qui ceci, qui cela. » Et s'ils se disaient « Et nous, quelle est notre responsabilité ?» Je veux dire par là, quelle est notre responsabilité, notamment en tant que législateur. Alors, je parle au sens général, bien sûr. Et, en fait, tout le monde sait que s'il y a des fraudes possibles à la TVA par l'utilisation maligne des règles en présence, c'est simplement parce que les règles en la matière, notamment sur le plan international, sont telles, il y a une telle complexité des mécanismes, eh bien que un certain nombre de personnes ont compris comment on pouvait les utiliser.
Justement, Éric Vernier, on a entendu en introduction l'indignation appuyée de Bruno Le Maire devant l'Assemblée nationale. Dans la réalité, est-ce qu'on ne s'aperçoit pas aussi avec ces révélations de la force des lobbies qui cherchent à influencer la législation pour permettre à ce genre de pratique de rester légale ?
Oui, tout à fait. Alors, je rejoins ce que vient de dire M. Delsol totalement. On a un problème souvent même de définition. Aujourd'hui, si on regarde les définitions officielles des paradis fiscaux, il n'y en a que très peu. Alors que lorsqu'on regarde les faits, il y en a bien une soixantaine dans le monde. La déclaration de M. Le Maire, comme en partie celle de M. Moscovici d'ailleurs, m'inquiète. Parce que à leur niveau de décision, de dire qu'ils découvrent les choses, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant.
Alors c'était devant l'Assemblée nationale.
C'est de l'hypocrisie. D'ailleurs, M. Moscovici, ce matin, pour contrer justement nos inquiétudes, a dit « mais je le savais depuis très longtemps », donc ce qui est encore pire. Donc je crois qu'effectivement, au-delà du lobby, c'est la différence de force aujourd'hui des puissances d'un côté des grandes multinationales, de l'autre des États. On a face à face aujourd'hui des multinationales énormes, gigantesques, qui peuvent même absorber des États, face à des États qui sont, et depuis la crise c'est encore pire, qui sont totalement amoindris, affaiblis, et qui finalement acceptent ce que leur dictent les multinationales.
Jean-Philippe Delsol, ce maquis dont vous parliez, de la législation complexe qui permet justement aux multinationales et aux grandes fortunes de contourner les règles, est-ce que ce n'est pas aussi le fait d'un jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que les États tentent d'adapter la législation petit à petit aux pratiques des multinationales qui ont toujours un temps d'avance ?
Non, je ne le crois pas, à dire vrai. Je pense que les États ont multiplié les règles, ont augmenté la complexité de leurs règles fiscales, de leur réglementation fiscale, parce que ils pensent qu'ils doivent être les maîtres du jeu et qu'il faut qu'ils interviennent sur tous les terrains en modelant les comportements avec des règles fiscales. Et ils en ont tant fait qu'en définitive, d'ailleurs, il règle très peu les comportements, sinon des comportements d'évasion. Parce que, en fait, tout ça devient insupportable à un double niveau. Il y a les lobbies qui font en sorte que les règles changent pour eux, ça s'appelle des privilèges, des lois privées, au sens strict du terme, qui sont conçues pour les uns ou pour les autres. Il y a 700, on dit 500, en fait, il y en a 700 niches fiscales en France, pour donner un exemple. Et ces 700 niches fiscales, je voudrais donner un chiffre pour voir, pour montrer ce qu'ils représentent, c'est 195 milliards d'euros par an. C'est montrer combien, en fait, les États sont, et la France en particulier, responsables déjà, eux-mêmes, d'une sorte d'évasion légale, parfaitement légale. Et puis, l'autre comportement, c'est effectivement l'évasion ou l'optimisation, qui sont le fait, là, plutôt d'individus, qui agissent dans leur propre intérêt. Et quand M. Moscovici nous dit, je le cite, un scandale qui montre, et je le cite donc une fois encore, que certaines entreprises et particuliers fortunés sont prêts à tout pour ne pas payer d'impôts. Mais oui, et je pense que M. Moscovici aussi doit essayer, quand il fait sa déclaration d'impôts, de payer le moins possible. Donc quand on peut utiliser des règles parce qu'elles sont mal faites pour payer moins d'impôts, on le fait. C'est normal.
Éric Vernier voulait réagir.
Oui, enfin, je crois effectivement que les États et en tout cas les politiques mettent des cataplasmes petit à petit. Donc dès qu'on découvre une faille, on va colmater. Je crois que le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision globale. On a une économie qui s'est mondialisée, qui s'est digitalisée, qui s'est modernisée en 20 ans comme on n'a jamais vu en plusieurs siècles. Et face à cela, on a des États avec des systèmes et des outils fiscaux qui datent parfois d'un siècle. Donc je crois qu'effectivement il faut tout remettre à plat, mais le remettre globalement. Cependant, il y a des propositions. Le problème, c'est que les propositions des politiques, c'est souvent des grandes idées infaisables. Donc on est là à dire, vous voyez, j'essaie de faire quelque chose et nous allons faire des choses. Nous y réfléchissons d'ailleurs avant de les faire, et ils réfléchissent quelquefois très longtemps. Le problème, c'est comme c'est infaisable, ils sont assez tranquilles, rien ne bougera. Et c'est ça le problème, à mon avis, depuis des décennies.
Avant de continuer, je voudrais vous faire écouter à tous les deux un court extrait sonore.
Qu'est-ce exactement qu'un paradis fiscal ?
Les paradis fiscaux sont de petits pays avec une faible vocation économique qui, en offrant des avantages fiscaux, essayent d'attirer les riches résidents de leurs voisins. J'en dénombre dans ce guide une bonne soixantaine, dont plus de 40 sont extrêmement avantageux et utiles à être utilisés.
Mais tout ça, c'est pas très légal.
Ah, tout ça est parfaitement légal, parce que ça correspond aux lois de chacun de ces pays, librement votées, et en même temps au schéma de décisions prises par les pays qui lutte contre les paradis fiscaux, et à partir du moment où on ne viole aucune loi, tout est parfaitement légal.
Alors, c'était en 1977, Édouard Chambaud venait présenter à la télévision son guide des paradis fiscaux à une époque où on fumait encore dans les studios. Tout ça pour dire que ce débat n'est pas récent. Comment expliquer, Jean-Philippe Delsol, Éric Vernier, que rien ou presque ne semble avoir avancé? Éric Vernier, peut-être pour commencer.
C'est un petit peu ce que j'expliquais. C'est d'abord qu'on est toujours suiveur, donc on colmate. Et deuxièmement, je crois plus grave d'ailleurs, c'est qu'il y a une complicité tacite des politiques et des États. Parce qu'ils ont eux-mêmes un intérêt. On le voit d'ailleurs, quelquefois, un intérêt direct, un intérêt personnel direct.
À quel état vous faites allusion?
Je fais allusion dans les révélations aux proches de Trump, aux proches de Trudeau, à la reine d'Angleterre.
Donc au gouvernement plus qu'aux
États. Donc les gouvernements, les personnes du gouvernement, même au-delà du gouvernement, donc des individus qui ont intérêt, qui sont ceux-là même qui doivent légiférer. Donc effectivement, ce qui explique qu'on ne bouge pas, c'est que chacun y trouve finalement un intérêt pour plein de raisons qu'on n'a peut-être pas le temps de développer ce soir, mais en tout cas, beaucoup de gens y trouvent un intérêt à ce que ça ne change pas, et je pense plus particulièrement à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais pas seulement.
Jean-Philippe Delsol, sans remonter à 1977, on se souvient de la déclaration en 2009 de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, il n'y a plus de paradis fiscaux. On se rend bien compte aujourd'hui que c'était pas tout à fait le cas.
Ça n'était pas le cas. C'est vrai qu'il y en a globalement de moins en moins. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui.
Pourquoi est-ce qu'il en reste alors que c'est un scandale qui revient d'année en année?
Alors, il en reste parce qu'il y a toujours des États souverains qui utilisent leur souveraineté pour attirer un certain public, pour attirer des contribuables qu'ils n'auraient pas sans ces règles particulières. Et c'est vrai que quand vous êtes l'Irlande, par exemple, au bout du bout de l'Europe, et que vous vous dites, j'aimerais bien me développer, c'est pas évident, parce que on comprend bien que les entreprises étrangères qui veulent venir en Europe pour faire des affaires, elles auront plutôt tendance à venir en France ou en Allemagne. Donc faut trouver un truc. Et l'Irlande, elle a trouvé un truc qui était l'impôt sur les sociétés à 12,5% stable dans la durée.
Mais là, on ne parle pas de l'imposition de l'Irlande, on parle de contourner complètement l'impôt.
Moi, je parle bien de l'impôt de l'Irlande, parce que l'impôt de l'Irlande, 12,5% d'impôt sur les sociétés, on peut dire que c'est un paradis fiscal, d'une certaine manière.
Enfin, Jersey ou l'île de Man, par exemple, au large de l'Irlande, qui pratiquent des taux bien inférieurs encore.
Alors, l'île de Man pratique des taux bien inférieurs, mais aller dans l'île de Man, c'est quand même un peu plus compliqué aussi. Donc là, on y installe plutôt des holdings. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que la réponse qui a été donnée, c'est pour ça qu'il en existe encore, la réponse qui a été donnée, elle est mauvaise. On a cherché, on cherche encore toujours, à ce qu'on appelle harmoniser, qui en fait est plutôt, d'ailleurs, à uniformiser. On aura beaucoup de peine pour le faire, parce que chaque État est souverain, surtout dans son domaine fiscal. C'est l'un des domaines éminents de la souveraineté. Et au surplus, ça ne servira à rien, parce que tout le monde ne marchera pas, et ce sera fait au détriment, d'ailleurs, des contribuables et de l'économie. Donc je pense qu'il vaudrait mieux plutôt que chaque État réfléchisse avant de chercher à faire à trouver des solutions avec les autres, qui trouve les solutions par lui-même. Et il me semble, je vais donner un exemple, que si la France, plutôt que de pratiquer les taux qui sont dans certains domaines parmi les plus hauts du monde en matière d'imposition, avec des dépenses publiques qui aussi en taux par rapport au PIB sont parmi les plus élevés du monde, si elle se disait, mais non, il faut remettre notre modèle en cause, essayer de moins prélever sur les contribuables, d'avoir des taux plus raisonnables, mais par contre que ces taux soient sur l'ensemble des revenus ou actifs de ces contribuables. Bon,
je vais laisser Eric Vernier réagir quand même, qui piaffe d'impatience.
Je piaffe un peu parce que, alors c'est pas une volonté systématique, Monsieur Delsol, mais je vais quand même vous contredire à deux reprises.
Mais c'est fait pour ça.
D'abord sur le nombre de paradis fiscaux. Alors justement dans mon livre Fraude fiscale et paradis fiscaux, j'ai un chapitre qui s'appelle le guide du mallettard. C'est-à-dire qu'on met un nombre de mallettes en fonction de l'opacité. Il y a toujours une soixantaine de paradis fiscaux. C'est-à-dire autant que ce qui a été annoncé en 1977 par Chambost. Donc on est toujours à 60 paradis fiscaux. S'il y en a un peu moins officiellement, c'est parce qu'on a changé la définition et qu'effectivement, sur certaines listes, il n'y en a même aucun. Sur la liste française, la liste de l'OCDE, la liste du GAFI, c'est juste une question de définition. Mais il y a toujours une soixantaine de territoires qui nous posent problème et qui sont d'ailleurs des territoires de prélavage pour la City, pour la plupart. Le deuxième point sur lequel je ne suis absolument pas d'accord, c'est sur le taux excessif de la France. C'est toujours ce qui est présenté par certains depuis quelques jours, c'est de parler d'enfer fiscal, d'impôts confiscatoires, notamment en France. Mais je suis désolé, on vient de parler d'Irlande, 12,5%, c'est quand même, on ne peut pas dire que c'est un enfer fiscal, et pourtant Google se débrouille pour passer à 0,5% en Irlande. Donc le but n'est pas de faire de l'optimisation fiscale et de payer un peu moins d'impôts, le but est de ne pas en payer, absolument pas, et de passer par tous les éléments que l'on peut utiliser, quitte à passer par des sociétés écrans sans activité, par des activités fictives, par des circuits qui posent problème. Et quel est le résultat? Parce que j'aimerais bien quand même, puisque le titre c'est la morale, j'aimerais bien quand même rappeler, vous êtes fortement écouté sur le continent africain, lorsque vous donnez 1 euro d'aide publique à l'Afrique, il y a selon les pays entre 2 et 10 euros qui s'évadent ou qui partent par optimisation fiscale via les multinationales. C'est-à-dire que vous pouvez donner autant que vous voulez à l'Afrique, il y a jusqu'à 10 fois plus qui va ressortir en catimini grâce à tous ces montages. Donc sur la morale, je crois que là, il n'y a même pas de question à se poser. Ce n'est pas moral et ça fait crever des pays et des territoires.
Jean-Philippe Dassault, je vous laisse réagir sur l'aspect moral.
Oui, bien sûr. D'abord, je vais dire que malheureusement, puisque nous sommes écoutés en Afrique, s'il n'y avait que l'optimisation fiscale, ce serait peut-être pas grave. Car lorsqu'on donne 1 euro ou 2 ou 3 à l'Afrique, il y en a beaucoup qui partent aussi dans la corruption des dirigeants, et c'est probablement la plus grande perte en ligne qui existe.
Certains pays perdent la moitié de leur PIB par les multinationales qui ne payent aucun impôt quand même.
Mais ce que je voulais ajouter, c'est que...
Il nous reste 30 secondes, Jean-Philippe Dassault, pour terminer.
Vous avez donné l'exemple de l'Irlande, et je trouve qu'il est bon, effectivement, parce que c'est un pays qui pratique des taux très sensiblement plus bas que les autres pays d'Europe, et avec son taux le plus bas, 12,5%, soit près de 3 fois moins le taux français d'impôt sur les sociétés, le produit de l'impôt sur les sociétés irlandais, en pourcentage du PIB, est le même que le produit français de son impôt sur les sociétés à un taux 3 fois plus élevé. Et si certains grandes entreprises que vous avez citées payent moins encore que les 12,5%, c'est avec l'accord de l'État, dans le cadre d'un accord avec l'État irlandais. Donc là aussi, je dis que c'est de la responsabilité des États.
Vous savez que l'Europe...
Et plutôt que d'aller crier au loup l'Europe et d'accuser les gens de respecter la loi, mais de la respecter pas comme les États voudraient, eh bien,
l'Europe oblige l'Irlande à réclamer les 13 milliards à Google.
On va rester sur ce désaccord, messieurs. Donc, on a bien compris que sur l'aspect moral et éthique de cette affaire, il y a un profond désaccord entre vous. Merci beaucoup à tous les deux. Eric Vernier, directeur de l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation, chercheur à l'IRIS, Jean-Philippe Delsol. Vous êtes avocat fiscaliste. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Florence Ponce et à Fabrice Violet qui étaient à la réalisation ce soir.